Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Nous allons parler aujourd'hui des indulgences. Une des grandes questions débattues au XVIe siècle a été celle des indulgences. Rappelons que les indulgences entrent dans le cadre de la rémission des péchés. Elles complètent l'absolution en vue de la satisfaction d'être vis-à-vis de nos frères concernant les péchés déjà pardonnés par Dieu. Je vous propose de relire ce que dit à ce sujet le catéchisme de l'Église catholique. Premièrement, tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures, attachement qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans un état que l'on appelle le purgatoire. Cette purification libère de ce que l'on appelle la peine temporelle du péché, vis-à-vis de nos frères en particulier. Deuxièmement, dans la communion des saints, il existe entre les fidèles, ceux qui ont la possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire et ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre, il existe donc entre ces différents fidèles un constant lien d'amour et un abondant échange de tous les biens. Le recours à la communion des saints permet aux pécheurs d'être plus tôt et plus efficacement purifiés des peines du péché. Troisièmement, l'indulgence s'obtient par l'Église qui, en vertu du pouvoir de lier et de délier qui lui a été accordé par le Christ Jésus, ouvre le trésor des mérites du Christ et des saints pour obtenir du Père la remise des peines temporelles dues au péché. Quatrièmement, puisque les fidèles défunts en voie de purification sont membres de la même communion des saints, nous pouvons les aider, entre autres en obtenant pour eux des indulgences. Dans le cas du XVIe siècle, cette question avait tendance à se dénaturer car la satisfaction était souvent perçue sous la forme d'aumônes en monnaie sonnante et trébuchante. Qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, la comptabilité est plutôt étrangère au domaine surnaturel. Complication supplémentaire, pendant un temps assez long, une partie importante de ces dons était utilisée pour la construction de la basilique Saint-Pierre qui exigeait des sommes considérables. Selon l'abbé Huvelin, le financier du Saint-Siège, un dénommé Fougueur, n'était pas un modèle d'édification. Les peines temporelles étaient comptabilisées souvent évaluées en jours ou en quarantaine, ce qui est doctrinalement pour le moins incertain. Nous sommes loin de la réflexion du Christ rapportée par saint Marc, chapitre 12, verset 43, au sujet d'une pauvre femme. En vérité, je vous l'ai dit, cette veuve chétive a donné plus que ceux qui ont versé dans le tronc par poignée, avait précisé saint Marc. C'est alors que surgit Luther, 1483-1544. Il faut reconnaître que sa personnalité est attachante sur plus d'un point. Il n'était guère attaché à l'argent, ses parents étaient plutôt pauvres, son père l'envoya faire ses études à Magdebourg chez des franciscains qui envoyaient parfois leurs élèves mendier pour subvenir à leur existence. Il termina ses études à Erfurt. Un jour, au cours d'une promenade, la foudre tomba à ses pieds. La pensée de la mort se dressa devant lui, effrayante. Il entra le jour même chez les Augustins en emportant deux livres, Virgile pour la tendresse et Claude pour la partie comique, voire rabelaisienne. Son âme a été le théâtre de combats terribles, de luttes douloureuses. Il possédait une grande éloquence. Comme le dit l'abbé Huvelin, c'était, dans un certain sens, un cœur pur qui a toujours gardé une certaine tendresse. Il aimait la musique et la poésie. Il a écrit plusieurs poèmes mis en musique par Jean-Sébastien Bach. Les Allemands chantent mieux que les Français. Il a beaucoup contribué à fixer la langue allemande. Il aimait aussi beaucoup la nature. Il avait un tempérament plutôt explosif, ce qui pouvait le pousser à la grossièreté. Une partie de ses écrits est exposée dans des propos de table qui ne sont pas sans faire penser à Rabelais de temps en temps. Après sa rupture avec l'Église, il épousa une religieuse, Catherine de Bora, dont il eut 6 enfants. Ce n'était pas une nature calme. L'âme de Luther est celle d'un mystique qui cherche un contact direct avec Dieu. Il considérait la prière vocale comme superflue. Secoué par de multiples tentations, dont les tentations charnelles, l'âme de Luther avait une horreur du péché, mais aussi beaucoup de bienveillance pour ce qui est faible. Sa force de caractère, jointe à son désir de désintéressement de l'argent, le rendait sympathique. Il tenta de mettre la force de son caractère en accord avec sa doctrine, mais souvent en négligeant les enseignements de ses supérieurs. C'est là le drame. Cela l'a conduit à devenir un homme de révolution, un prêcheur d'idées nouvelles. Il a beau être attaché à sa foi, mettre sa vie dans le nom du Christ, dans le nom du Christ Sauveur, on le jugea surtout sur les conséquences de sa doctrine. On dira de lui, représenté en train de brûler la bulle du pape, qu'il n'a rien fondé mais tout ébranlé. Les luthériens disaient qu'il avait affranchi du despotisme sacerdotal, qu'il avait délivré les esprits courbés comme des cerfs, fondé la religion réformée sous le libre examen, la liberté de conscience et la tolérance. Phrase pour le moins osée, quand on sait que cette tolérance aboutit aux guerres de religion et aux ravages de maintes églises. On voit apparaître chez Luther la vanité, l'orgueil qui met en avant son opinion sans tenir compte de l'autorité supérieure légitime. Domaine ô combien difficile, car il arrive que la dite autorité supérieure aille au-delà de son domaine légitime. Le rationalisme abusif de Luther refusait la confession, qui, disait-il, donne à certains jeunes la vocation d'entrer dans le secret des âmes, notamment chez les femmes. Un humoriste a dit que le droit de confesser les femmes a été donné aux prêtres pour les consoler de ne pas être mariés. C'est aux maîtres que c'est aux apôtres que le Christ a dit « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez ». En complément du pardon, la confession permet à l'âme de s'ouvrir à Dieu comme une fleur au printemps, a-t-on dit, de prendre conscience que Jésus l'aime et veut la soulager de ses peines. Il ne s'agit en rien de surprendre des secrets, mais d'aider le pénitent à aller au fond de lui-même. Notons que, dans notre monde déchristianisé, le psychiatre prend de plus en plus souvent la place du confesseur, mais moyenne en finances. Le mariage de Luther débuta bien. Certes, elle était plutôt expansive, mais bavarde et moins savante que son époux. Elle disait « Le plus grand homme d'Allemagne, celui dont tout le monde parle, est à moi. Bien des femmes seraient fières d'avoir pour époux Martin Luther. » Mais elle n'avait pas la même hauteur. Elle aimait les cancans. Elle a dit « Comment se fait-il qu'autrefois notre cœur était plus gai alors que vous étiez moine et moi nonne ?» Luther avait surtout la joie profonde de l'homme actif qui voit son œuvre. Il avait tendance à oublier que le bonheur de sa femme faisait partie de ses devoirs. Les déviations doctrinales ne manquaient pas à l'époque. Les anabaptistes voulaient rebaptiser les enfants devenus adultes et les sacramentaires niaient toute présence réelle dans l'Eucharistie. Les luthériens prônent que les deux substances, matérielles et spirituelles, sont présentes dans l'Eucharistie. Pour les catholiques, l'Eucharistie, la substance du pain, a complètement disparu pour la substance de notre Seigneur, qui est réellement présent dans le signe que le prêtre nous présente. Avec le temps, Luther sentait l'esprit de prière s'éloigner de lui. « Pour prier maintenant, a-t-il dit un soir, il faut que je me mette en colère contre le pape. Je ne puis parler à Dieu sans maudire. » C'est une bien mauvaise pente. Nous sommes bien loin de l'année de la miséricorde. Veillons à ne pas tomber dans ce fossé. Pour les protestants, Luther a restauré les beaux jours, mettant fin au temps où le sacerdoce opaque s'était mis en travers de la voie que les âmes prennent pour aller à Dieu. L'Église est accusée de voiler la croix. Les hommes se retrouvent en face de la parole vivante sans avoir besoin du prêtre qui n'est qu'un mécanisme. Quelle erreur! Plus besoin de confession, une seule larme de repentir purifie tout. Je ne puis m'empêcher de penser à Icare tentant de monter au ciel par ses propres forces. Luther disait « Croyez, vos péchés seront remis ». Le pasteur protestant n'est plus un ministre du Christ, il n'est qu'un prédicateur. Naturellement, Luther rejette comme apocryphe l'épître de Saint Jacques dans laquelle on lit « Que sert aux frères de prétendre avoir la foi ?» si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Et on lit encore un peu plus loin, « Comprend, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» Ajoutons que c'est saint Jacques qui présente l'onction des malades. Si le malade a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. On conçoit que ce saint ne soit pas très à l'honneur chez les protestants. Il est certain que Luther avait une belle prestance et une éloquence persuasive qui professait avec force et talent un mélange de prière, un mélange de vérité et d'erreur. L'antithèse de Luther est en quelque sorte saint Ignace de Loyola, qui allait jusqu'au plus profond des âmes pour les amener à Dieu. Il n'est pas un théoricien, il a le zèle des âmes. Pour éviter à un de ses amis de se rendre en un mauvais lieu, il s'était plongé dans un petit fossé d'eau froide sur le chemin de cet ami en lui disant « Je serai là toutes les fois où tu fréquenteras cet endroit ». Il est aussi allé se confesser à un prêtre à la conduite douteuse, en marge de ses devoirs, afin de l'inviter à mieux contrôler sa conduite. C'est une grande chose que de vouloir sauver une âme. Un des ressorts des actes de Luther reste l'orgueil, qui avec la jalousie sa cousine est la racine des maux les plus graves. Luther a avoué que Satan n'était jamais aussi fort qu'à la fin de sa vie et le tourmentait en lui disant « Tu es seul, tu as tout le monde contre toi, donc tu es grand. Nous sommes à la racine du péché de Lucifer, à l'opposé de « qui me soit fait selon votre parole ». Décidément, ce n'est pas en rejetant en profondeur l'enseignement du magistère que l'on répond à l'amour de notre Sauveur. La prochaine fois, nous tenterons de voir comment tout cela a engendré le protestantisme qui continue à diviser l'Église et à faire bien des dégâts. Là-dessus, je vous souhaite une joyeuse Pâques en ces temps qui approchent.